Les ailes.
Les ailes.
Les ailes.
Les ailes.
Les ailes. Les ailes. Le podcast.
Je me suis dit que j'ai pas envie que d'autres femmes souffrent comme j'ai souffert.
Et là, soudain, il y avait une équipe, on était nombreux, on avançait super vite, c'était super stimulant.
Pour moi, oui, ça a toujours été une évidence que je voulais faire plus.
Bonjour les filles.
Bonjour.
Je suis ravie de cet épisode tout ensemble, un vendredi soir. Comme un apéro entre copines,
exactement,
en fait.
Exactement, oui.
Ouais, là, il manque les chips quand même.
Quand exactement, même un peu de chips, ouais. Un peu de saucisson.
Et un verre de vin.
Alors, Priscilla, Camille, qui veut se présenter en premier?
Alors, Priscilla, je m'appelle Priscilla, j'ai 34 ans. Je suis la présidente de l'association La Culotte Rouge. Voilà, c'est ce que je fais. Du coup, c'est une activité en bénévolat. À côté, je travaille dans le marketing. Et j'ai aussi une page Instagram où je parle d'un trouble lié au cycle menstruel. Je vous en dirai un peu plus au fil de
ça
ce
fait,
podcast.
Ça fait beaucoup un agenda bien rempli, j'imagine.
Oui,
dans ta
exactement,
semaine.
Oui.
Bah moi, je suis Camille, j'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans dans pas longtemps du tout. Là. Et je suis autrice illustratrice de livres pour enfants. J'habite sur le bassin d'Arcachon, je dis ça juste pour me la péter.
Non, c'est un peu cool, c'est un peu cool.
Ouais, exactement.
Mais surtout, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ici?
Alors en fait, j'ai eu l'idée d'un petit jeu pour smartphone qui s'appelle Uterus. Et c'est un jeu qui parle, entre autres, d'endométriose. Mmh. Voilà, donc de maladies gynéco. Et voilà.
Je comprends déjà le pont entre vous deux et entre nous trois. Moi, j'ai de l'endométriose, donc je sens que ça va me parler. Priscilla, tu parlais de troubles, notamment féminins. Est-ce
oui.
que tu peux m'en dire plus?
D'accord. Du coup, moi, je souffre d'un trouble dysphorique prémenstruel. Mmh. Donc, un trouble dysphorique prémenstruel, c'est un syndrome prémenstruel x 1000, avec une prédominance de symptômes psychologiques. Donc, anxiété, dépression, pensée suicidaire, angoisse, paranoïa.
Je vais être une femme, quoi.
Voilà, exactement. Ouais. Et tous ces symptômes arrivent au moment de l'ovulation. Mmh. Donc, 14 jours... avant les règles. Et je souffre de ce syndrome qui m'a pourri la vie pendant 10 ans avant que je sache ce que j'avais. Donc, autant vous dire que pendant 10 ans, j'ai cru que j'étais folle. Mmh. Ça a été très compliqué et c'est un trouble qui est encore méconnu en France. Donc, je milite pour parler de ce trouble et qu'il soit reconnu par le corps médical et qu'on puisse aider les femmes quoi, qui en souffrent.
Ouais, oui. Ça, c'est un pont, j'imagine, qui vous relie aussi. C'est le temps qu'on met à déceler ce souci chez la femme. Toi, de ton côté, l'endométriose, c'est pas vraiment mieux, non?
Oui, ça s'appelle le retard diagnostique. Je sais que l'endométriose, la moyenne, elle est de 7 ans. Mm. Et moi, c'était pile 7 ans. D'ailleurs, on a mis 7 ans avant de comprendre ce que c'était. Mais j'imagine que pour toi, ça doit être encore plus long, comme vu que personne ne connaît, c'est encore plus...
10 ans, quoi.
Ouais.
Ben, le problème, c'est que aussi, vu que les symptômes sont invisibles, en fait, c'est vraiment une maladie invisible. Il n'y a pas de...
Oui, il n'y a pas d'IRM ou d'échographie pour...
Exactement.
Pour dire, ah bah voilà, c'est ça.
Oui, c'est vrai.
Exactement. Du coup, c'est très compliqué. Et puis aussi, c'est vraiment la parole de la femme, en fait, qui est souvent remise en cause. On est trop chochotte, on en fait trop, on exagère. Donc, c'est hyper compliqué.
Oui, et puis on a l'habitude, je pense, en tant que femme, de réprimer un petit peu nos douleurs parce que c'est censé être normal d'avoir mal, alors que non, c'est pas vrai. Ça, je pense que c'est vraiment la plus grosse idée reçue qu'on puisse avoir.
Oui. Et puis, il y a beaucoup de biais de genre dans la médecine. Et du coup, si une femme, elle a mal, on va mettre plus de temps avant de lui donner un doliprane, etc. Il y a des choses comme ça. Et c'est, enfin, il y a des statistiques, quoi. C'est prouvé.
Mmh.
Donc...
Et est-ce que tu peux m'en dire plus sur le sujet? Parce que je pense que ça intéressera celles qui nous écoutent, notamment les raisons... concrète de cette différence homme-femme?
Ça, je ne vais pas pouvoir dire grand-chose parce que comme je ne suis pas médecin, voilà. Mais je sais que, par exemple, les médicaments, ils sont traités... les effets secondaires des médicaments, par exemple, ils sont testés sur des hommes, en fait. Donc du coup, les femmes ne vont pas avoir les mêmes effets secondaires ou des petites choses comme ça. Là, par exemple, pour le vaccin du Covid, il a fallu qu'énormément de femmes disent « Et en fait, il y a un petit problème là.
On
n'a plus mes règles. » Enfin, on a des... Moi, par exemple, je suis sous pilule en continu, je n'ai jamais mes règles. Là, j'ai eu mes règles. Enfin, et ça arrive à tellement de femmes que... Et personne ne s'en était rendu compte parce que voilà, les effets secondaires, c'est testé sur les hommes. Donc ça, c'est quand même un énorme truc, quoi.
Oui, il y a un vrai biais. Là-dessus, parlez-nous de vos causes qui, donc, se relient de façon très puissante. Je me tourne vers toi, Priscilla, avec la culotte rouge. Est-ce que tu peux m'en dire plus ?
Alors, la culotte rouge, c'est vraiment mon bébé qui est né, en fait, de mon militantisme à travers ma page Instagram TDPM et moi, où du coup, je partage mon expérience avec le trouble dysphorique prémenstruel. Et en fait, au fil des années, j'ai réussi à rassembler une communauté de femmes bienveillantes et j'ai reçu énormément de DM, donc de femmes plus âgées, mais aussi de jeunes filles qui me décrivaient les symptômes du trouble dysphorique prémenstruel et qui étaient complètement perdues. Et je me suis dit, en fait, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas encore, qu'on n'éduque pas les personnes menstruées, les jeunes filles, à savoir est-ce que c'est normal d'avoir ces règles pendant 7 jours, 8 jours, enfin plein de choses à savoir. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire quelque chose pour la jeunesse et pour les générations futures qui arrivent et qu'il faut donner cette éducation parce que, en fait, moi, une fois que j'ai été diagnostiquée, que je suis rentrée dans ce milieu et que je suis devenue littéralement Madame Règle, j'ai appris tellement de choses.
Madame Règle, j'adore.
Qui m'ont aidée au quotidien et qui expliquent tout, en fait. Et que je ne savais pas pourquoi personne ne m'a dit que, en fait, la santé mentale, c'était lié à mon cycle menstruel, que je pouvais être triste et plus fatiguée à certains moments. Et en fait, c'est vraiment le but de l'association, donc la culotte rouge, donc, qu'on a créée en 2020, c'est de pouvoir informer et éduquer les personnes menstruées sur tous les sujets liés au cycle menstruel. Et on le fait à travers des ateliers ludiques dans les écoles, universités, associations, partout on a besoin de nous. Et on a aussi créé des outils pédagogiques. Donc on a créé un jeu de cartes, cette année d'ailleurs, qui s'appelle Sans tabou. Et c'est un jeu de cartes où du coup on découvre pas mal de choses sur le cycle menstruel tout en s'amusant parce que c'est aussi un jeu stratégique.
Mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de se dire qu'on va éduquer par un biais ludique. Donc forcément, ça marque plus les esprits, on a plus envie de s'engager. Toi, c'est exactement aussi ton projet.
Oui, c'est ça. Moi, en fait, j'étais un petit peu perdue avec ma maladie et puis on n'avait pas pu m'opérer parce qu'il y en avait trop. Donc il fallait que je me débrouille par moi-même. Et du coup, je m'étais tournée toute seule. Enfin, j'avais fait des recherches sur Internet. J'ai compris qu'il fallait que je sois actrice, en fait, de ma guérison, que je ne pouvais pas attendre que les choses tombent du ciel. Mmh. Et donc, petit à petit, j'ai découvert tout ce qui pouvait aider, l'acupuncture, la nourriture, enfin, plein de choses, en fait. Et puis, je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin. J'avais envie de devenir cobaye, carrément. Je voulais faire des tests. Enfin, je voulais participer, voilà. Et j'ai trouvé Compar. Donc, c'est la communauté de passion pour la recherche. Mmh. Et en fait, c'est vraiment super. Quand on a une maladie chronique, il faut aller sur leur site et on s'enregistre. Et en fait, ça leur permet d'avoir une énorme banque de données avec... Et puis, ils posent tout un tas de questions. Alors, on a des petits formulaires tous les 3-4 mois qui sont très rapides à répondre. Hein. C'est des petites choses du genre sur la douleur. Mais il peut y avoir des questions... sur la fatigue, enfin sur plein de choses. Et grâce à eux, en fait, je pense qu'on pourra combattre la maladie. En fait, c'est aux patients de faire quelque chose, il ne faut pas se laisser faire. Et donc, un jour, ils avaient demandé « Est-ce que vous voulez aller plus loin ?» Et là, j'ai dit « Oui, je veux aller plus loin !»
Oui, on a compris qu'il y avait du militantisme.
Ouais. Je voulais faire quelque chose de plus, quoi. C'était pas assez juste remplir le formulaire. Et donc là, ils m'ont parlé d'un hackathon. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le hackathon. Donc, là, ils appelaient ça la Game Jam. Donc, c'est un hackathon médical. Donc, c'est quand il y a plein de gens qui font des jeux vidéo qui se retrouvent pendant un certain temps, donc 48 heures, 60... Là, c'était 72 heures.
Ah ouais.
Et donc, le thème, c'était la recherche médicale. Et moi, j'y suis allée, j'avais mon idée dans la tête très précise. C'était, moi, je voulais faire un jeu sur l'endométriose où on prend le téléphone et on éclate les lésions d'endométriose. Comme ça, quand on a c'est mal, énorme. On peut se défouler. Je voulais vraiment un exutoire.
Et c'est mieux que les petites billes de plastique.
Exactement,
là,
ouais.
Ouais, voilà. Là, je voulais que ça soit vraiment un peu gore, un peu hardcore, pour, bah, comme la maladie. Parce ouais. que c'est et donc, j'arrive et là, je me rends compte que j'étais un peu hors sujet. Parce que c'était pas vraiment la recherche médicale. Moi, je voulais vraiment faire un petit jeu un peu comme un jeu d'arcade où, en fait, on éclate la maladie.
Moi, je trouve que ton idée est géniale. Hein, je...
mais c'est ça. Moi, je savais que c'était une bonne idée. Et du coup, j'ai pas lâché. Et en fait, j'en ai parlé parce qu'en fait, donc, dans ce hackathon, on était... Il y avait plusieurs... Il fallait former des équipes. Donc, il y avait des patients, il y avait des médecins, il y avait des chercheurs et il y avait des développeurs, des game artists, des game designers. Et il fallait créer des équipes. Donc, d'abord, j'ai trouvé deux médecins, en fait. Deux super meufs féministes qui m'ont entendu, qui ont dit « Ah non, mais c'est génial, on va faire ça. »
On est d'accord.
On va, merci.
Ouais, exactement.
On va juste un petit peu développer pour que ce soit plus axé sur les maladies féminines. Donc, on en avait pris deux autres, en fait. Donc, les fibromes et les mycoses chroniques. Mm-hmm. Et on s'est dit « Allez, on va développer parce que franchement, ce jeu, il a complètement... il faut le faire, quoi. » Et voilà. Donc, ce jeu, c'est... Éclatons des lésions d'endométriose, mais éclatons aussi des fibromes, la mycose, enfin
le
tous
syndrome
les trucs comme ça.
Prémenstruel.
Exactement, il aurait complètement sa place.
Exactement, oui.
Je pense qu'il y a une version, une deuxième version à faire.
Ah oui, je pense qu'on peut rajouter tout un tas de maladies.
Entendre, j'ai l'impression que c'est vraiment ça part d'un problème personnel, mais aussi d'une conviction, en fait, votre projet. Et c'est ça aussi, j'imagine, qui vous a poussé à persévérer, non ?
Pour moi, oui, ça a toujours été une évidence que je voulais faire plus et que je voulais m'engager pour ça parce que j'ai tellement souffert pendant 10 ans et je me suis dit que j'ai pas envie que d'autres femmes souffrent comme j'ai souffert. Et voilà. Et au moment où j'ai créé ma page Instagram, personne n'en parlait. Et en plus, il y a un vrai stigma sur la santé mentale et le trouble dysphorique prémenstruel touche la santé mentale. Donc, au début, je me suis dit, je vais faire une page Instagram. Et c'est marrant parce que la première chose qu'on m'a dite, c'est « mais tu vas faire une page de malade et vous allez vous pousser vers le bas ». Et en fait,
c'est fou de réfléchir comme ça.
C'est ce qu'on m'a dit. Et je me suis dit, non, je le fais. Et au début, j'étais vraiment la seule voix. Du coup, je parlais à une communauté qui était très passive, qui lisait mes stories, qui lisait mes posts, mais ne parlait pas.
Et puis en plus, tu étais vulnérable quand même en t'exposant de cette manière-là sur Instagram. C'est pas facile de parler et de sa santé mentale et de son intimité.
Exactement, oui. Au début, j'étais en soum-soum. Du coup, je ne mettais pas ma tête. Et à un moment, je me suis dit, écoute, quitte à être la voix ou le porte-parole de ce trouble, j'y vais. Et
ouais, t'y allais à fond, quoi.
Voilà, je suis partie à fond. Et...
Bah, moi, je sais qu'alors, du coup, sur le jeu, j'apparais pas du tout. Mais après,
et
sur
heureusement,
mon compte
parce
Instagram,
que j'ai compris qu'il fallait éclater des maladies.
Un petit peu, mais disons que je ne parle pas du tout de moi. Mais c'est vrai que sur mon Instagram aussi, j'ai mis des petites histoires, en fait j'avais besoin de raconter aussi et j'ai raconté en fait tout le diagnostic, le temps que ça m'a pris pour l'endométriose et je le reposte tous les ans au mois de mars et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai plein de témoignages, etc. Après l'endométriose, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus.
En ce moment, enfin.
Pour ne pas en avoir entendu parler, il faut vraiment avoir été dans une grotte ou je ne sais pas quoi. Mais
Moi, je suis certaine qu'il y en a encore qui ne connaissent pas. Et c'est pour ça que votre travail est essentiel, clairement, à toutes les deux. C'est intéressant parce qu'en plus, en vous mettant en scène, entre guillemets, en vous exposant sur Instagram, vous montrez un visage de personne normale qui peut avoir l'un de ces deux troubles. Et je pense que ça permet aussi de pouvoir se sentir concerné fortement par ce sujet-là. Est-ce que vous avez eu, vous, des rôles modèles qui vous ont boosté à développer votre projet en vous disant, en fait, moi, j'ai envie de militer aussi et je m'inspire de telle personne ?
Alors moi, je sais que quand j'étais au plus bas et quand j'ai découvert du coup le mot TDPM, j'étais à Londres. Et du coup, il y avait pas mal de comptes anglais déjà de femmes qui partageaient leur expérience avec le trouble dysphorique prémenstruel. Et je me suis beaucoup raccrochée à ces femmes. J'étais dans leur DM, comme de la même manière que maintenant j'ai des femmes dans mon DM.
Ouais.
J'étais celle qui envoyait des messages pour dire « je sais pas, qu'est-ce que je dois faire, je me sens pas bien ». Et ces femmes me répondaient. Et en fait, en rentrant en France, et quand j'ai vu qu'il n'y avait rien et qu'il n'y avait pas de compte Instagram dessus, je me suis dit bah, « j'ai envie d'aider de la même manière qu'on m'a aidée ». Et moi, c'est vraiment ce qui m'a motivée du coup à faire la page.
Hyper intéressant. Et toi, Camille ?
Pas spécialement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas sur Instagram, je suis plein de personnes, et notamment des patientes expertes.
Ah ouais, c'est un terme
que je connaissais pas. Ouais, c'est des patientes qui s'y connaissent tellement bien qu'en fait, c'est elles qui vont aller corriger sur les sites internet quand il y a des erreurs, etc. quoi.
Waouh, elles ont regardé toutes les saisons de Grey's Anatomy.
Ah non, mais elles sont vachement impressionnantes et à chaque fois, je suis là genre, waouh, c'est le stade d'après quoi.
Ouais, c'est clair. Et puis, je trouve ça hyper fort de reprendre un peu les clés de sa maladie et, comme tu le disais, ne pas tout laisser aux mains des autres parce que finalement, qui expérimente les symptômes, c'est vous. Vous êtes la plus à même de dire, en fait, là, je sens que ça ne va pas et j'ai envie de travailler activement main dans la main avec les experts. Et ce qui est fantastique, c'est que vous êtes devenue à votre tour experte et carrément créatrice de projets autour de ça. Enfin, c'est hyper admirable de tirer le fil en se disant, en fait, je vais créer une association, je vais créer des projets, un jeu, etc. Pour aussi donner le pouvoir aux autres femmes ensuite de se découvrir elles-mêmes.
Oui, et puis là, je voulais raconter un truc que je trouvais rigolo. C'est ma fille de 13 ans, au collège, elle est allée montrer à sa prof de SVT le jeu Uterus. Et la prof, elle était « mais c'est super !» Oui, c'est ma mère qui l'a fait. Et alors, du coup, il y a un jour, elle est rentrée dans la classe. Et là, la prof avait projeté le jeu sur le tableau. Et donc, il y en a qui ont commencé à rigoler. « C'est quoi ce truc ?» Et à pouffer. Et là, ma fille, elle se lève, elle se retourne, elle dit « c'est ma mère qui l'a fait. »
La fierté. Génial. On a tout gagné.
Ah mais grave.
C'est tellement mignon. Je me dis, si on peut comme ça. Enfin, ouais, bref. Trop
bravo.
Mignon.
Bravo. Qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler au programme Les L by Contrex ?
Alors, moi déjà, déjà en 2020, j'avais déjà postulé au L. C'était pour mon projet d'agenda. Du coup, c'est un agenda qui permet aux femmes de suivre leur cycle menstruel. Mmh. Un bullet agenda. Et je n'avais pas été prise.
C'est parce qu'on savait que le futur projet...
C'était du lourd. Et du coup, j'y suis retournée avec le projet de la culotte rouge et c'était la bonne. Mais pourquoi, en fait, c'est vraiment parce que déjà, quand j'avais regardé le site internet, et puis il y avait tous les projets, je voyais toutes les femmes et en fait, je m'étais déjà projetée. Je me dis, mais moi aussi, j'ai envie d'être là parce que c'est des femmes qui entreprenaient. C'est pas toujours facile d'entreprendre et puis tout le monde a des parcours différents.
Et on se sent seule par moments.
Exactement.
Aussi.
Et c'était vraiment la communauté DL qui était... Et je me suis dit, je veux faire partie de cette communauté, je veux faire partie de ça. Et le soutien aussi qui peut être financier, qui n'est pas négligeable pour réaliser le projet. Et aussi, je pense qu'être associée à une marque comme Contrex, c'est super aussi. Donc, qui est une marque pour les... Enfin,
pour les
femmes.
Bien sûr.
Au final, ma mère buvait du Contrex.
Bien sûr.
Voilà. Donc, voilà.
Super. Et toi ?
Nous, c'était vraiment un hasard, en fait. On ne savait même pas... Enfin, quand on s'est inscrit sur Ulule, on était... Enfin, on a découvert ça, on a fait « Non, mais attends, mais ça, c'est pour nous !»
Ça nous correspond bien.
Ah, ben, ça, c'est pour nous, il faut absolument que... Et alors là, du coup, on n'a rien lâché et on savait, c'était un peu comme si c'était le destin. On s'est dit « Non, là, il faut vraiment le faire maintenant. » Enfin, on était en mode, du coup, ça ne nous a plus arrêté, quoi. Et on avait un nouvel objectif.
Oui, et puis ça rend concret aussi son projet lorsqu'on est validé, en fait. Par
oui, exactement.
Ce genre de...
Quand on est validé, on se dit... Ouais, voilà, je savais qu'on
direction.
Était... Ouais, exactement.
Oui, ça donne une motivation supplémentaire, en
sens,
fait,
quoi.
Parce que quand on t'appelle au conduit, bon, bah, le comité, enfin, c'est des personnes qui ont regardé ton projet et comparé avec d'autres projets et qui ont trouvé que c'était un projet qui avait du sens et qui avait du coup, qui était important et surtout qui pouvait fonctionner. Donc, c'est cette confiance aussi, donc ça motive.
Et puis, il y a vraiment cette communauté ensuite de promos qui se crée et on rencontre le comité qui décide des projets et on voit que c'est vraiment juste des humains passionnés derrière qui prennent vraiment le temps de regarder, de lire leurs coups de cœur. Donc, vous savez que vous êtes là pour une raison et la preuve, on fait ce podcast passionnant ensemble. À l'inverse, donc là, on parle évidemment, tout est beau, tout est rose, mais évidemment que sur votre parcours, j'imagine que vous avez dû avoir quelques obstacles, sinon ce serait trop beau et ça n'existe pas, hein, un parcours sans faute. Je me retourne vers toi, Camille, quand tu as développé ton projet, est-ce que tu as un frein ou un échec marquant à me raconter ?
Oui, bah, y en a plusieurs. Déjà, par exemple, lors de la Game Jam, du hackathon, en fait, normalement, c'est un petit concours, quoi. Et nous, on n'a pas gagné le concours. Et on l'a pas gagné parce qu'on était un petit peu hors sujet. Mmh. Et qu'en plus, on parlait quand même d'un truc bien tabou. Du coup, j'avais vu sur la tête de certaines des personnes du jury une petite moue de dégoût, quoi. Et d'ailleurs, on m'avait fait remarquer que c'était pas complètement dans le sujet, etc. Donc, on s'est dit, c'est pas grave. Donc, je sais que ça a démotivé vachement mon équipe.
C'est quand même drôle qu'on dise que ton jeu est hardcore quand on voit le nombre de jeux dits plus masculins qui sont mais ultra hardcore. Ouais. C'est intéressant.
Mais oui, parce que là, mon jeu, c'est vrai qu'il est un peu gore, etc. Mais en même temps, la maladie, elle est gore, en fait.
Oui,
la
et
maladie,
puis on
elle
en connaît d'autres des jeux
enfin,
gore.
Voilà, ça peut pas être un truc avec des petits
Bien
trucs mignons.
Sûr,
c'est pas
horreur.
Le cas. C'est pas ce qui se passe dans nos ventres, quoi. Mmh. etc. Donc, et sinon, il y a plusieurs choses. Il y a aussi un des développeurs qui était des programmeurs qui étaient à fond vraiment sur le jeu parce qu'une fois que le hackathon a été terminé, tout le monde rentre chez soi en fait. Et donc là, il faut arriver à remotiver les équipes pour finir le jeu. Et il y avait encore beaucoup de boulot parce que, enfin bref, 72 heures, ça ne suffit pas.
Bien sûr.
Et donc, on a organisé des sessions où on ramenait tout le monde et on a acheté plein de sushis pour aller hop, on s'y remet, etc. Donc ça a demandé beaucoup d'énergie, en fait, de rassembler tout le monde pour continuer ce jeu sur lequel tout le monde bossait bénévolement. Mmh. Donc ça, ce n'était pas évident. Et il y en a un donc, qui était le super programmeur qui était à fond dessus, etc. Lui, il est carrément parti au Japon, mais il a pas lâché. Il a pas lâché.
Avec
donc
le décalage horaire en
ouais,
plus.
Voilà, donc très pratique, etc. Et en plus, il avait du boulot par-dessus la tête, mais il voulait finir ce jeu. Et donc, grâce à lui, merci Sébastien.
Merci Sébastien.
Vraiment. Et puis sinon, le dernier point, c'est que en fait, on a récolté une partie de l'argent. Elle a aussi été utilisée pour faire la communication, parce que c'est super important la communication, parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde, mais si on communique mal, voilà. Et en fait, ça n'a pas marché aussi bien que ce qu'on escomptait en fait. Et il n'y a pas eu beaucoup de retombées. Donc en fait, j'étais assez déçue parce qu'on avait vraiment vachement bossé dessus et au final, il n'y a pas eu les téléchargements qu'on attendait, etc. Donc là, je suis en train de me dire, il va falloir que je relance le truc, il va falloir que je crée une nouvelle compte, enfin une page Instagram pour recréer le truc, pour essayer de... Je ne sais pas trop comment je vais faire, mais je pense que je vais faire un peu... Je vais copier sur toi, écoute. Franchement, je me dis, pourquoi
c'est
pas
là, on est là pour échanger aussi,
ouais.
Choper
non,
des trucs
Non, mais si ça
astuces.
Peut permettre de... Parce que ce jeu, il est gratuit.
Bien
il
sûr.
Est, il est... On a essayé de mettre pas mal de connaissances dedans aussi. On explique aussi de ces maladies. C'est pas juste... pour dégommer la maladie, on explique un petit peu aussi, comme ça on apprend, etc. Et donc j'aimerais bien qu'il...
Bien sûr.
Qui touche plein de gens, en fait.
Mais c'est chouette aussi de parler du fait que dans une vie de créatrice, c'est tout à fait normal de traverser des périodes où juste on ne sait pas encore quelle est la direction, on travaille dessus, et puis il y a des moments de flottement où ça marche pas aussi bien qu'on aurait escompté, comme tu le disais, mais ça fait partie aussi du processus de création et je pense que c'est inévitable. Je me retourne vers toi, je te vois hocher la tête. Tu vois de quoi on parle.
Ouais. Ah oui, moi ça a été vraiment le parcours pour la création du jeu de cartes a été hardcore.
Ah ouais.
Déjà, en fait, comme c'est un jeu de cartes, et du coup on avait cette envie d'avoir une partie stratégique, un peu comme un jeu Uno ou... Voilà. Du coup, il fallait trouver une mécanique de jeu. Et nous, on n'est pas du tout dans le milieu du jeu. Donc,
oui, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même un métier, quoi.
Exactement. Donc, on est rentré dans une industrie qu'on ne connaissait pas du tout. On a trouvé, en fait, un groupe de personnes, de jeunes créateurs d'Île-de-France qui se regroupent, en fait, tous les mois et qui testent leurs prototypes. Donc, okay. On est parti là-bas et on est arrivé avec notre prototype, trop fiers de nous, nos petites cartes qu'on avait découpées avec des couleurs faites au stabilo. Et en fait, on commence à jouer et ils nous démontent notre jeu. Cette mécanique, ça fonctionne pas, c'est trop. Et en fait, on est ressorti de cette réunion abattu. On avait envie d'arrêter. On s'est dit, on va jamais y arriver. Et là, il a fallu du coup trouver un nouveau souffle en fait et se dire, on y va, on rebosse.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de te remettre dessus? Quel a été le déclic?
Alors, j'avais pas le choix parce qu'il y avait des gens qui attendaient le jeu. Donc j'avais pas le choix et heureusement parce que c'est ce qui a fait que j'ai pas lâché parce que j'avais en fait cette épée de Damoclès qui me disait il y a des gens qui attendent le jeu. Donc on a rebossé sur la mécanique, on est reparti et on nous a dit oh, c'est un peu mieux. On était contente, on a rebossé donc voilà. Donc c'était la mécanique, après ça a été le graphisme. On a changé trois fois de graphiste et puis surtout qu'on n'avait pas un budget illimité. Donc, mais
puis
par contre,
tous tes projets à côté.
Exactement. Et surtout que, en fait, je ne voulais surtout pas un graphisme bâclé. Donc voilà, là, c'est encore reparti. On pense qu'on a terminé, qu'on va l'envoyer à l'imprimeur. Non, pas du tout. Il y a encore une coquille, il y a encore ça qui ne va pas. Enfin, c'était.
Ouais, c'est sacré bébé. Ouais.
Ah ouais, c'est.
Un accouchement long.
Mais oui, c'est ça. Mais ça a duré 9 mois d'ailleurs. Ça devait durer 6 mois. Mais...
c'est drôle.
Voilà, et c'était, ouais.
Et mon livre, 1 an et demi au lieu d'un an, je connais le retard. D'un point de vue concret, lorsque vous avez mené. Votre campagne sur Ulule, est-ce que, parce que c'est pas facile à faire une campagne, ça demande beaucoup d'énergie, de temps, est-ce que vous auriez des conseils concrets à donner à ceux et celles qui nous écoutent ?
Oui, alors déjà, c'est un marathon. Il faut savoir qu'une campagne Ulule, c'est un marathon de malade. Il faut avoir les reins solides, il faut avoir aucune attente. Parce que moi, je sais, j'ai fait 2 campagnes Ulule quand même. Et à chaque fois, je dis c'est la dernière parce que vraiment, moralement, physiquement, c'est épuisant. Mais c'est que du bonheur, mais il faut le dire, c'est très épuisant. Faut pas avoir moi, j'avais beaucoup d'attentes. Les personnes qui vont contribuer et vous aider, ce n'est pas les personnes que vous pensez.
Très vrai.
Qui ouais, allait le faire. Moi, j'ai été surprise, mais vraiment.
Ouais. Faut lâcher prise aussi là-dessus en disant c'est pas grave.
Exactement, parce que ça peut créer beaucoup de conflits. Ouais. On s'attend à ce que certaines personnes nous soutiennent, pas du tout.
Et puis d'autres à laquelle on n'avait absolument pas pensé. On fait tiens.
Exactement.
Il était dans ma classe quand j'avais 18 ans.
Oui, c'est
ça. On ne s'est pas parlé depuis 15 ans.
C'est ça. Super projet, j'ai contribué. Tu dis waouh. Et en fait, tu as des gens beaucoup plus proches qui ont du mal à contribuer. Tu te dis, mais ils sont capables de me payer un verre, mais ils ne sont pas capables de participer à mon projet. Bizarre.
Oui, il faut lâcher prise avec ça. Ouais.
Exactement. donc voilà, il faut vraiment lâcher prise parce que sinon, on peut être vraiment très déçu. Bien préparer en fait la campagne en amont, les postes, parce que du coup nous on préparait les postes le jour pour le lendemain, d'avoir une com bien rodée avant de commencer pour pouvoir juste balancer et pour être juste dans l'attaque.
Super conseil.
Ouais.
Et toi Camille,
écoute, j'ai pas grand chose à rajouter, je peux juste dire que j'étais contente de pas être toute seule sur la page, quand on était plusieurs et puis on n'arrêtait pas de se corriger pour rendre le truc plus attractif, etc. Mais après, c'est vrai que nous, on n'avait pas... Parce que toi, tu as dû... c'était un système de précommande pour
oui,
le jeu, c'est
oui,
ça
ouais.
Ouais, ça doit être plus compliqué.
Ouais.
Mais ce qui te foutait la pression, la fameuse épée de Damoclès, mais
il
positive.
Faut faire le jeu.
Exactement. Ah oui, parce que nous...
Ils ont payé. Bon,
c'est ça. Ah, voilà.
Oui, c'est ça. ça.
De voir leur faire un jeu.
C'est ça. Et ce qui est marrant, parce qu'on en a discuté, mais je me suis inspirée de ta page.
Ça, c'est génial.
Ça, c'est parce drôle.
La classe.
Et moi-même, je m'étais inspirée de pages. On évidemment. Le dira pas, évidemment.
Ouais. Donc, ne pas hésiter aussi à regarder ce qui se fait ailleurs et à prendre les bonnes astuces de chacune, en fait. C'est vraiment une entraide.
Ouais.
Oui, et puis ce qui marche bien, moi, je trouve quand même, c'est les vidéos. Mm. Ça, tout de suite, ça retire l'œil. C'est hyper vivant, ça marche bien.
Ça rend
bien.
Humain.
Ah ouais. Puis de voir la tête des gens aussi, je trouve, c'est important. Mm. Les gens qui font le projet, il faut voir leur tête.
C'est vrai, ouais.
J'ai payé parce que sa tête me plaît. Est-ce que vous auriez un conseil de grande sœur à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans un projet qui lui tient à cœur, mais qui n'ose pas encore tout à fait?
Eh bien, en fait, moi, je pense que y a sûrement plein de personnes qui ont besoin de ce projet ou qui vont trouver ça génial ou qui vont se reconnaître dedans ou qui ont aussi l'idée et qui n'osent pas le faire. Et du coup, y a toujours des retombées positives. Par exemple, le fait de parler de sa maladie sur Instagram, au début, ça fait super peur parce qu'on se dit quand même, on se met à nu, on va être jugé et tout. Et en fait, il n'y a que de l'amour qui arrive. Mmh. Et là, on se dit, ah, j'ai bien fait de le faire, ouais. ça fait du bien. Et puis les gens, ils sont contents et puis ils nous remercient, etc. Donc ouais, c'est en fait, quand on voit tout le positif qui arrive derrière, ça vaut vraiment le coup, en fait. Mmh.
Tu es d'accord avec ça?
Oui. Je suis d'accord avec ça et moi, ce que je dirais comme conseil, c'est en fait, on ne regrette que les choses qu'on n'a pas faites, en fait.
Amen.
Et en fait, moi, c'est ce que je me dis et j'ai la chance pour le moment de me dire à chaque fois que j'ai eu envie de le faire, je l'ai fait, même si ça n'a pas fonctionné ou quoi, j'ai pas de regrets. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que les regrets. Ouais, j'ai pas envie de vieillir sur mon lit d'hôpital et me dire j'aurais dû faire
ce jeu de société.
Voilà. Je pense que je fais. Et aussi, je pense que le conseil, c'est de ne pas rationaliser. Parce que quand on commence à rationaliser, on voit toutes les petites choses qui ne vont pas fonctionner.
Ce sont les peurs qui entrent en jeu.
Exactement. Et moi, enfin, mes deux projets, je n'avais pas le projet fini avant de m'être lancée. Et en fait, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'avais pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, on fait les choses et on les fait bien souvent parce que du coup, on a un carcan en fait qui fait que on a des contraintes et on doit le faire avec ce qu'on a. Et ça donne les meilleures choses, je trouve.
Oh, c'est tellement juste. Et puis, on se met un peu moins la pression en se disant que c'est aussi le retour des gens qui va construire notre projet parce que sinon, on n'avance pas.
Exactement.
Plus qu'un projet, j'ai l'impression que c'est une expérience de vie pour toutes les deux. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, Priscilla ?
Qu'est-ce que ça m'a appris ? Que j'étais capable. Et que surtout, ce que je voulais prouver et montrer, c'est que malgré la maladie, malgré le fait que je peux avoir deux semaines de down, deux semaines où je suis pas bien, je suis capable de faire des choses comme quelqu'un qui ne souffre pas de ce trouble et même de les faire encore mieux. Donc pour moi, c'est une fierté. Mmh. Et puis surtout quand j'ai des jeunes filles qui m'écrivent sur Instagram et qui me disent « j'ai peur de pas pouvoir finir mes études », mais en te regardant et en voyant que tu arrives à réaliser tes projets quand même et tes rêves, je me dis « c'est possible ». Et ça,
t'as tout gagné, en fait.
Voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est tout ce que... cette énergie, je me nourris de ça. Voilà.
T'as bien raison. Ah, c'est beau. moi, ça m'a surtout appris, pareil, que je pouvais tirer de la force, en fait, de la maladie. Que c'était pas que du négatif, quoi. Et puis aussi, j'ai découvert le travail en équipe. Parce que moi, d'habitude, je travaille toute seule, à ma table. Je fais mes petits dessins et j'écris et tout. Et je suis vraiment dans mon monde, dans ma bulle. Et là, soudain, il y avait une équipe. On était nombreux. On avançait super vite. C'était super stimulant.
Mais
super
gratifiant.
Il y avait une ébullition,
aussi,
quoi. Ouais. Et j'étais là, mais je suis à l'origine de... C'est moi qui ai eu l'idée du truc. Et là, tout ce qui se passe, c'était vraiment génial. Ça m'a beaucoup plu. J'aimerais bien... recommencer.
Mais c'est pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure faire une synergie parce que je savais pas que du coup qu'elle était autrice et illustratrice et comme on développe pas mal de
projets en équipe,
pédagogiques. Voilà.
À faire, à suivre.
Exactement.
Bon, si c'était à refaire, vous le referiez?
Oui.
Hein?
Oui. Pareil.
Ça se trouve, tout pareil. Ouais, moi je pense.
Ouais, pareil, mais je rajouterai une page Instagram et je serai en mode « Allez, on y go !» Ouais.
Allez, de la com, des synergies, de
talents.
Merci beaucoup à toutes les deux, c'était hyper intéressant.
Bah, merci à toi, c'était
merci,
super.
Merci, ouais. Merci à vous.